Voilà, mais écoutez, on va encore prier et ensuite on va ouvrir la Bible à Matthieu chapitre 5, d'accord ? Donc prions. Seigneur, merci de tout cœur pour ce matin et pour le privilège de pouvoir être ici, nous réunir dans cette magnifique pièce, cette salle, Seigneur. Et merci pour les enfants. Je te prie pour ceux et celles qui vont enseigner les enfants dans des conditions pas toujours faciles, dans les couloirs et autres. Et je te prie vraiment que tu rendes ces enfants attentifs et rends-nous aussi attentifs à ta parole. Seigneur, merci pour tous tes bienfaits dans nos vies et aide-nous à mieux comprendre ce qu'est un chrétien ce matin. Seigneur, à savoir comment nous devons vivre notre vie pour refléter la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et je t'en remercie maintenant, au nom de Jésus. Amen. Voilà, mais écoutez, si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir à Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, et nous allons regarder un passage des Écritures, peut-être un des mieux connus de la Bible. C'est, du moins, qui fait partie d'un des passages les plus connus de la Bible. Bon, le grand passage des trois chapitres, 5, 6 et 7, c'est le Sermon sur la montagne. Et aujourd'hui, nous allons regarder les premiers versets qu'on intitule d'habitude les Béatitudes. Les Béatitudes. Et j'aimerais, peut-être pour commencer, simplement lire ces versets. On va lire jusqu'au verset 12, d'accord ? Matthieu 5, 1 à 12. Alors, on va lire ensemble. « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, et c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors, c'est vrai que le sermon sur la montagne est probablement une des portions des Écritures les mieux connues de la Bible, mais peut-être aussi une des moins bien comprises. Alors, un des thèmes principaux de toute la Bible est le désir de Dieu d'appeler à lui un peuple saint, un peuple irréprochable, un peuple mis à part, un peuple qui lui appartient, un peuple qui lui obéisse, un peuple qui a en fait comme rôle, très important ce que je vais dire, un peuple qui a comme rôle être tout simplement différent des autres, mis à part pour le servir. L'intention de Dieu a toujours été d'utiliser son peuple pour provoquer une sainte jalousie, afin que les autres peuples qui ne connaissent pas Dieu regardent et par ce qu'ils voient aient envie de venir à lui parce qu'ils voient dans le peuple de Dieu quelque chose de tellement différent, tellement attrayant qu'ils veulent connaître ce vrai Dieu. Si vous avez Lévitique 18 devant vous, on voit ceci dans l'Ancien Testament. L'idée que Dieu voulait mettre à part un peuple différent. Dans Lévitique 18, 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc, c'était son peuple, choisi Israël. « Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. » Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est intéressant. Deux peuples. Le peuple de Dieu qui reflète les valeurs de Dieu et un peuple qui ne connaît pas Dieu, qui ne reflète pas les valeurs de Dieu. Alors ça, c'était l'objectif de Dieu. Mais, malheureusement, on le sait, dans les siècles qui suivirent cette injonction, eh bien, ce peuple juif a commencé à mettre de côté les préceptes de Dieu, et au lieu de rester différent que les peuples avoisinants, eh bien, s'est fait gentiment leurrer par eux. Ils ont commencé à adopter les mêmes pratiques que les peuples qui ne connaissaient pas Dieu. Ils ont commencé à se conformer à leur style de vie. Et le résultat, le psaume 106 nous dit, « Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions. Ils aigrirent son esprit, car ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. » Alors, l'objectif de Dieu n'a pas eu lieu parce que ce peuple n'a pas fait ce que Dieu voulait. Alors, Dieu, il a une idée. C'est d'envoyer des prophètes. Des prophètes pour leur demander de se repentir, pour leur rappeler que Dieu voulait qu'ils soient vraiment différents. Jérémie 10, 1 et 2, « Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël, ainsi par l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations. » Donc Dieu apporte et envoie des prophètes pour leur rappeler, « Mais écoutez, vous devez être différents, vous êtes le peuple de Dieu, n'imitez pas les nations. » Et le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Non, il a refusé de se repentir. Alors, bien sûr, il y a toujours eu des poches de gens qui ont voulu suivre le Seigneur, mais la grande majorité a refusé de se repentir, et ils préfèrent être comme les autres. Et le résultat, c'est que Dieu, tout au long de la parole de Dieu, juge. Il juge le peuple. Et souvent, en les emmenant en captivité par des pays païens. Alors ça, c'est l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, c'est pareil. C'est pareil. Dieu a un peuple, les rachetés par Jésus-Christ son Fils. Nous sommes son peuple. La Bible les appelle dans Jean 1,12 les enfants de Dieu. Toute personne qui a reconnu un jour son état de péché, qui a reconnu que par ses propres œuvres il ne pouvait rien faire pour s'en défaire, mais que Dieu avait envoyé son Fils Sauveur pour lui pardonner son péché par sa mort et sa résurrection, celui qui accepte cela par la foi, qui a le cœur transformé, renouvelé, qui est né de nouveau, nous dit Jean 3,3, est enfant de Dieu. Il fait partie du peuple de Dieu. Nous sommes son peuple. Dans le monde entier, dans tous les pays du monde, il y a ceux qui ont placé leur foi en Christ et eux font partie du peuple de Dieu. Ce sont nos frères et nos sœurs en Christ, nous dit la parole de Dieu. Et dans le sermon sur la montagne, le premier sermon que Jésus donne, Dieu, Jésus-Christ, décrit à quoi devrait ressembler ce peuple. Alors c'est super pratique. Parce que peut-être vous êtes ici ce matin, vous dites, bon, moi je suis chrétien. Moi, je fais partie du peuple de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Bon, regardons, faisons le bilan. C'est super clair, d'accord? Et à vous de voir si vraiment vous connaissez le Seigneur ou pas. Si vous reflétez vraiment la nature d'un vrai chrétien. Regardez chapitre 6 et le verset 8. C'est un résumé, si on veut, de tout le sermon sur la montagne. Bon, on va faire un résumé ce matin. Bien sûr, on peut pas aller dans tout le détail. Mais si on devait résumer en un verset le sermon sur la montagne, n'oublions pas que Jésus apporte ce message à ses disciples en contraste avec les pharisiens. C'était les leaders juifs corrompus à l'époque. Et regardez ce qu'il dit au verset 8. Qu'est-ce qu'il dit ? « Ne leur ressemblez pas. » Waouh ! « Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Le contexte est la prière. Il dit, La grande différence ici, ou ce que je cherche, c'est que vous soyez différents que eux. Comme dans l'Ancien Testament, un peuple différent des nations. Et donc, le sermon sur la montagne décrit explicitement le contraste radical entre la vie d'un chrétien et la vie d'un non-chrétien. Il est en train de dire qu'un disciple de Jésus-Christ, par nature, sera différent du monde, même des personnes religieuses, différent de vos voisins. En fait, nous, en tant que chrétiens, nous devrions être différents des autres à la maison, au travail, dans notre société, dans nos loisirs, dans notre vie quotidienne. Le Dieu de l'univers nous a envahis, nous a transformés, il change les références de nos vies, nous avons été justifiés, pardonnés, lavés, réconciliés, et le résultat, c'est que nous sommes différents. Différents. Alors, une des grandes erreurs qui se fait en regardant les béatitudes, c'est que, regardez le verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur une montagne, sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Il les enseigna. Alors, regardez que chaque béatitude commence, verset 3, heureux, verset 4, heureux, verset 5, heureux, verset 6, heureux, verset 7, heureux, et verset 8, heureux, et verset 9, heureux. Le mot heureux, c'est en fait le mot béatitude. Béatitude veut dire heureux. Moi, j'ai regardé dans le Petit Robert ce matin, heureux veut dire ceci, ou béatitude veut dire ceci. Félicité parfaite dont jouissent les élus. Félicité parfaite dont jouissent les élus. Content, bien-être, euphorie. Alors c'est très intéressant qu'une des erreurs fréquentes que l'on peut faire en lisant le sermon est de conclure que Jésus est en train de donner les critères, écoutez bien, pour rentrer dans le royaume. Voici ce qu'il faut faire pour pouvoir rentrer dans le royaume. C'est ce qu'on peut croire en lisant cela. Et c'est ce que certaines personnes veulent entendre. Ah, moi je suis une personne qui vit par les principes du sermon sur la montagne. Voilà une bonne éthique de vie qu'a donné Jésus, une bonne éthique interreligieuse. Quelle que soit ta religion, si tu fais ça, Dieu te laissera rentrer dans le royaume. Ça c'est ce qu'on entend dire parfois. Alors si vous avez un petit peu regardé le sermon sur la montagne, j'aimerais vous dire que cela est une interprétation impossible. Impossible. Pourquoi? Parce que c'est impossible de le faire. C'est tout simplement impossible d'appliquer le sermon sur la montagne par nos propres efforts. C'est impossible. Et je vous donne un exemple, le verset 8. Dites-moi si c'est possible de faire le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ah, alors tout ce qu'il faut faire, c'est de se purifier le cœur et puis c'est bon. Est-ce que tu arrives à te purifier ton cœur? C'est impossible de purifier son cœur. Non, tu diras, oui, mais je peux l'améliorer. Alors, quel est le critère de Dieu pour atteindre le royaume de Dieu? Ben, regardez le chapitre 5 et le verset 48. Voici le critère de Dieu pour arriver au royaume de Dieu. Verset 48, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Voyez-vous, le critère de Dieu, c'est la perfection et rien de moins. Donc, de dire à quelqu'un, obéis les béatitudes, est-ce que tu arrives à les obéir parfaitement? Impossible. Voilà pourquoi nous avons besoin de Christ. Christ nous transforme et nous donne la capacité de commencer à obéir, mais la perfection, c'est Dieu qui nous la donne en Christ. C'est pas nous qui pouvons l'atteindre par nos propres œuvres. C'est impossible. Deuxième petite remarque, c'est que Jésus s'adresse à qui lorsqu'il donne les béatitudes? Mais il dit, voyant la foule, il voit la foule, Jésus monta sur une montagne, verset 1, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et là, on voit clairement qu'il est en train d'ouvrir sa bouche, verset 2, et les enseigna, les disciples. Alors bien sûr, la foule peut entendre ce qu'il dit, mais il s'adresse aux disciples qui sont, eux, déjà régénérés. Donc nous voyons que les béatitudes sont destinées à ceux qui connaissent Christ déjà, les disciples. Et on voit par ces béatitudes le résultat d'une conversion authentique. Ça va être de plus en plus clair. Alors prenons les béatitudes un à la fois. Alors prenons-les un à la fois, les 8 traits de caractère qui doivent être visibles chez tout chrétien. Numéro 1, le chrétien est pauvre d'esprit. Pauvre d'esprit. Regardez ce qu'il dit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être pauvre d'esprit? Eh bien, c'est quelqu'un qui se reconnaît pauvre spirituellement. C'est quelqu'un qui reconnaît qu'il est pauvre et donc qu'il n'a rien à offrir. Une personne pauvre n'a rien à offrir. C'est ce qu'on appellerait la ruine ou la faillite spirituelle. Un pauvre, quand j'étais en Inde, je le voyais souvent, mendie, on le voit ici en fait aussi à Genève, n'est-ce pas? Les pauvres, ils n'ont pas les ressources dont ils ont besoin et donc ils mendient, ils demandent. Eh bien, un pauvre spirituel, c'est celui qui reconnaît sa banqueroute personnelle. Il est ruiné spirituellement, il n'a rien à offrir à Dieu. Et il réalise que vis-à-vis de Dieu, il n'a rien. Si Dieu n'agit pas et ne lui donne rien, il ne recevra rien. C'est ça quelqu'un qui est pauvre en esprit. Le psaume 34:7 nous dit « Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Voilà, un pauvre, c'est quelqu'un qui est malheureux spirituellement et il n'a rien d'autre à faire que de crier à l'Éternel. Il dit « L'Éternel, Éternel, fais quelque chose pour moi. » Et à ce moment-là, l'Éternel réalise « Ah, toi, tu n'as pas de bonnes œuvres à m'offrir, tu n'as rien, tu es une banqueroute spirituelle, à toi je te donne mon fils. » Ésaïe 57:15, « Car ainsi parle le Très-Haut, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. » Le grand problème avec les religions du monde, c'est que les religions du monde vous disent « Si toi, tu peux t'en sortir toi-même. » Il faut faire des bonnes œuvres, il faut faire des pèlerinages, il faut prier, il faut faire toutes sortes de choses et de mécanismes. Et Dieu regardera et dira, ah oui, toi tu es une très bonne personne. Et toi tu rentreras dans le ciel si tu as été assez bon. La Bible ne dit pas ça du tout. La Bible, la première condition que Jésus évoque ici, c'est une pauvreté spirituelle, une banqueroute. Vous n'avez rien à offrir, zéro. Vous êtes ruiné par votre propre péché. C'est ce que Éphésiens 2, 8 et 9 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Tu peux faire toutes les bonnes œuvres que tu veux, tu ne pourras jamais rendre à Dieu un cœur parfait. C'est impossible. Et donc ces religions sont fausses lorsqu'elles vous disent que par vos propres œuvres, vous pouvez le faire. Non, Jésus donne la condition ici, banqueroute spirituelle. Et qu'est-ce qu'ils reçoivent, ceux qui sont en banqueroute spirituelle et qui se tournent vers lui? Verset 3 nous le dit. Car le royaume des cieux est acquis à eux. C'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. Dieu veut que nous soyons des contrits. Humble. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. J'accepte ton don gratuit de la vie éternelle en Christ. Au fait, si tu fais ça, quel est le résultat? Quel est le premier mot dans le verset 3? Heureux! Vous savez, le monde est dans une frénésie aujourd'hui, sans arrêt, pour devenir heureux. Vous avez remarqué? Tout le monde veut être heureux. Ils veulent tous être heureux. C'est normal. On veut être heureux. Voici la formule. C'est la formule du malheur. Et la première chose, c'est si tu as une banqueroute spirituelle, personnelle, tu seras heureux parce que tu vas comprendre que Dieu lui-même te donne le salut. Et il va te rendre heureux dans ton cœur. Ah, c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire. Numéro 2. Donc un chrétien, premièrement, est pauvre d'esprit. Deuxièmement, verset 4, il est affligé. Vous savez, c'est marrant, si on faisait un séminaire à Genève. Voilà, un séminaire, comment être heureux? Venez, je vous apprendrai comment être affligé. Les gens, ils vont rien y comprendre, là. Parce que c'est le monde à l'envers, ici. Mes amis, l'évangile, c'est le monde à l'envers. Regardez ce qu'il dit. Heureux, les affligés. Les gens disent, oui, il y a des contradictions dans la Bible. Alors là, c'est ce qu'on appellerait une contradiction apparente. Ça colle pas humainement. On se dit, mais attends, je comprends pas. Comment est-ce qu'on peut être heureux et affligé? Et qu'est-ce qu'il dit? Et ils seront consolés. Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. C'est ce qu'on appelle des contradictions apparentes. C'est parce que les gens ne comprennent pas Dieu. Alors, que veut dire être affligé? Le mot veut dire frapper, abattre, frapper durement, être accablé d'un malheur, être profondément attristé. Vous avez déjà vu une personne vraiment triste, peut-être après un décès? C'est cette profondeur de tristesse, on est perdu, on est accablé. C'est presque parfois, on pourrait se dire, c'est mieux de mourir que d'être si triste. Vous avez déjà été dans une situation comme ça, où on a presque cette tentation. Ça peut arriver, c'est humain ça. C'est presque un désespoir total. Alors vous dites, mais déjà, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut être heureux dans un désespoir total? Eh bien, parce que cette marque suit la première. Une personne qui est pauvre d'esprit, une personne qui réalise qu'elle n'a rien à offrir à Dieu, mais qu'elle ne peut que recevoir de Dieu salut, c'est une personne qui reconnaît sa ruine spirituelle, qui est pauvre d'esprit, et là maintenant, cette prise de conscience devient personnelle. Ça devient une affliction personnelle. Je réalise de manière très vraie, peut-être émotionnelle, mais disons véridique, qu'il n'y a rien de bon en moi qui puisse obtenir un mérite quelconque de Dieu. Et je sens humainement cette affliction intense d'avoir offensé par mon péché un Dieu saint. Je ne sais pas si vous avez déjà pleuré sur votre péché. Moi, oui. Des fois, bon, je suis converti, je sais que je suis pardonné. Mais parfois, ma chair est encore active. Des fois, je pourrais dire des choses, ou penser des choses, ou faire des choses que je sais ne sont pas plaisantes à Dieu, et ça m'afflige. Et moi, c'est déjà arrivé de pleurer carrément sur mon péché. Et avant, alors bien sûr, quand je me suis converti en 1976, quand j'ai pris pleine conscience de ma vie, de ma rébellion vis-à-vis de Dieu, c'était terrible. En fait, j'étais à Golgotha, j'étais en Israël, et là, j'étais face à la crucifixion de Jésus, sans tout comprendre. Et là, j'ai pleuré comme un bébé. Et je sais que Dieu préparait mon cœur. Il me préparait pour que je prenne pleinement conscience que je n'avais rien à offrir à Dieu. Rien. De cette petite histoire dans Luc 18, 9, du publicain et du pharisien. Il dit encore cette parabole, Luc 18, 9, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. Il y a certaines personnes qui disent, non, moi je suis bien. Moi je suis bien. Moi, je suis une bonne personne, Dieu, il est content de moi. D'accord? Deux hommes montèrent au temple pour prier. Alors, Jésus donne cette histoire. L'un était pharisien et l'autre publicain. Pharisiens, c'était les chefs religieux juifs qui se prenaient vraiment pour des gens bien, justes, droits. Ils pensaient que par leur mérite, ils pouvaient recevoir vraiment des choses extraordinaires de Dieu. Et le publicain, c'était les mal vus de la société. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Ô Dieu, regarde, moi je suis vraiment bien. » Hein? Vous savez, il y a tellement de gens comme ça. Alors maintenant, il y a le publicain, c'est le rejeté de la société. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Voilà ce que Dieu veut entendre. « Ô Seigneur, je mérite tout ton courroux et ta colère. Sois apaisé envers moi, moi qui suis un pécheur. » Jésus dit ensuite, je vous dis, « Celui-ci descendit dans sa maison justifié. Lui a reçu le salut plutôt que l'autre. » Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est ça l'affliction. Un vrai chrétien, c'est une personne qui reconnaît que spirituellement il est pauvre et il est affligé. Parce que moi je crois qu'un vrai chrétien, ça s'entend tous les jours. Car un vrai chrétien se reconnaît du fait qu'il demande souvent pardon. Il reconnaît ses gaffes, ses erreurs. Il reconnaît ses faux pas. Et ça s'entend. Je te demande pardon, frère. Je te demande pardon, sœur. Dans un mariage, je te demande pardon, chérie. J'ai dit un truc que j'aurais pas dû dire. Peut-être un enfant ou un enfant à son parent. toujours en train de demander pardon, parce que nous sommes justifiés par Christ, mais nous reconnaissons notre état de faiblesse et de ruine. Et bien sûr, c'est le Seigneur qui nous sauve. Et quel est le résultat? Ils seront consolés. Consolés. Alors c'est ça qui est génial. C'est vrai qu'un vrai chrétien, alors d'un côté, il est toujours accablé par son péché. Vous savez, plus on approche, c'est la lumière là-haut, d'accord? Si je vous montre ma montre, et j'approche ma montre de cette lumière. Alors là, vous dites, elle est super cette montre. Mais plus vous approchez de la lumière et vous la regardez, plus vous verrez, elle est pleine d'imperfections. C'est intéressant, plus on se rapproche de la lumière, plus on voit notre imperfection. Donc plus un chrétien grandit dans le Seigneur, plus il va prendre conscience de son imperfection et plus il va être reconnaissant pour son salut et son pardon. Et plus il va être consolé parce que la lumière le console. Ouais, c'est le monde à l'envers, vous trouvez pas? C'est génial. Trois. Un, heureux les pauvres d'esprit. Donc un vrai chrétien est pauvre d'esprit. Deux, il est affligé. Trois, il est débonnaire. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Alors, que veut dire débonnaire? Alors, le mot praus, en littéral, veut dire d'une bonté poussée à l'extrême. Veut dire clément, indulgent, pacifique, doux, patient, complaisant, inoffensif. Moi, quand je pense au mot débonnaire, je pense souvent à une nouille mouillée. Hein? Quelqu'un un petit peu mou, quoi. Une personne molle. Hein? Un sort de faiblard, une personne sans nerfs. Ouais, moi, j'appelle ça une sorte de nouille mouillée, d'accord? Alors, est-ce qu'il est en train de dire, ben voilà, il faut qu'on soit des nouilles mouillées? Je parlais à un jeune tout à l'heure, il m'a serré la main, puis on s'est dit, tiens, on devrait quand même serrer la main avec... On ne devrait pas donner une sorte de main de poisson, mais non, quelque chose d'assez solide, d'accord? Alors, ce qu'on devrait tous, c'est des... Hein? Est-ce que ça, c'est vraiment ce qu'est un débonnaire? Mon père me disait souvent, quand j'étais jeune, il n'était pas chrétien, mais il nous donnait des perles de vie, si on veut. Il me disait, John, un homme, c'est quelqu'un de fort, mais doux. Fort, mais doux. C'est ça, être débonnaire. C'est la force maîtrisée. La force maîtrisée. Un commentateur a caractérisé cette caractéristique comme ceci, la douce attitude de patience qui, face à l'offense, se soumet et se retient de toute malice et de tout désir de vengeance. En fait, la caractéristique d'être débonnaire se voit surtout lorsqu'on est attaqué ou persécuté. Comment est-ce qu'on réagit? C'est une chose de reconnaître sa pauvreté spirituelle et de pleurer son propre état de péché devant Dieu. Mais qu'en est-il lorsque quelqu'un vient vers moi et me révèle mon péché? Comment je réagis? Non mais t'as voir, t'oses venir me parler comme ça? Puis on réagit, ou bien est-ce qu'on dit, merci frère, merci sœur, j'avais vraiment besoin d'entendre ça. C'est dur, hein? Mais ça, c'est la réaction d'un cœur converti. Je trouve intéressant dans 1 Pierre 2, 18, je vais vous lire. Voilà comment les serviteurs devaient réagir à leur maître. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile, car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Ouais, c'est cette réaction force, mais maîtrisée, d'humilité et de douceur. C'était la réaction de Jésus aussi lorsque lui a été condamné injustement, n'est-ce pas? Donc, un vrai chrétien, premièrement, il est pauvre d'esprit. Deuxièmement, il est affligé. Troisièmement, il est débonnaire. Alors, vous savez, ça peut arriver qu'un chrétien ne réagisse pas de la bonne manière. Eh bien, quand vous ne réagissez pas de la bonne manière et vous en prenez conscience, vous retournez au point 2. Vous devenez affligé du fait que vous avez mal réagi et vous avez demandé pardon. Et si vous faites ça, vous serez heureux. Heureux, heureux, heureux. C'est ce qu'il dit. C'est la formule du bonheur. Quatre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Faim et soif de la justice. Le quatrième trait d'un chrétien. Faim et soif de la justice. Cette caractéristique décrit l'ambition suprême de tout chrétien sans exception. Écoutez bien, c'est l'ambition suprême de tout chrétien. Alors je te pose la question directe. Est-ce que ta première ambition, c'est la justice de Dieu? Est-ce que tu as faim et tu as soif de la justice de Dieu, de plaire à Dieu en toute chose? Dieu est juste, il est saint. Il nous déclare juste et saint. La sanctification, en termes théologiques, c'est notre pratique qui peu à peu s'aligne à la vérité qui a déjà eu en Dieu en nous. Dieu nous a déclaré juste et saint. Lui, il est vraiment et totalement saint. Et notre vie s'approche de cette sainteté. Le jour où on meurt, on est traduit dans une éternité, dans sa présence et dans sa sainteté. Tant qu'on est sur terre encore, est-ce que ton ambition suprême, suprême, c'est de progresser dans cette justice, d'être de plus en plus comme ton Sauveur et ton Seigneur? Le chrétien est absorbé par la poursuite de la justice de Dieu. Alors ça, c'est franchement l'opposé du monde. L'opposé du monde. Non, on a l'impression que le monde, lui, est absorbé par la poursuite des possessions, de la convoitise, de l'orgueil, afin d'accomplir leur propre but et afin de satisfaire leurs propres égaux. Ça, c'est le monde. Dans 1 Jean 2,15, « N'aimez point le monde, ni les choses du monde qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. » Voilà de quoi caractériser le monde. 1. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et ses convoitises aussi. Tu peux passer toute ta vie à accumuler des trucs, à convoiter des trucs, et à t'enorgueillir sur les trucs que tu as convoités, que tu as réussi à avoir dans la vie. Alors je ne dis pas que c'est un mal d'avoir des choses. Le Seigneur nous dit dans 1 Timothée 6 qu'on a le droit de travailler, on a le droit de gagner sa vie, on a le droit même d'être riche. Ce n'est pas un mal d'être riche, ça dépend du mobile. Car c'est l'amour de l'argent qui est un grand mal. Et ça, c'est ce que le monde recherche. Elle recherche ces choses. Le chrétien, ce n'est pas ce qu'il recherche. Ce n'est pas son ambition suprême. Non, son ambition suprême, c'est la justice de Dieu. C'est quand même vraiment différent, vous ne trouvez pas? C'est vraiment, vraiment différent. Et là, ça demande un cœur transformé. Le commentateur Barclay décrit les conditions de faim et de soif en Palestine au temps de Jésus. Le fait est, il dit, que peu d'entre nous, au temps moderne, savons ce qu'est d'avoir réellement faim et réellement soif. Dans le monde antique, c'était différent. Le salaire d'un ouvrier était équivalent à 3 pence par jour, et avec un tel salaire, il est certain qu'un ouvrier ne pouvait jamais devenir gros. Un homme ouvrier en Palestine ne mangeait de la viande qu'une fois par semaine au plus. En fait, l'ouvrier en Palestine n'était jamais très loin d'être dangereusement sous-alimenté. C'était encore plus le cas pour la soif. Il n'était pas possible pour la vaste majorité des gens d'allumer un robinet et d'y trouver une eau claire, pure et froide qui coulait dans leur maison. Un homme pouvait être en voyage au milieu du vent chaud qui amenait si souvent des tempêtes de sable. Il n'y avait rien qu'il pouvait faire à part entourer sa tête dans un foulard et tourner le dos au vent et puis attendre pendant que le tourbillon de vent et de sable remplisse ses narines et sa gorge de sable afin jusqu'au point de suffocation parfois. Sa bouche était souvent desséchée et brûlait. Dans les conditions du monde moderne, il n'y a pas de parallèle à cela. Ainsi, cette béatitude décrit la faim et la soif de quelqu'un qui ne pouvait être satisfait par un petit goûter vers les 10h du matin ou 4h de l'après-midi, ou un croissant ou une barre de chocolat, ou d'une soif qui ne pouvait être soulagée par une tasse de café ou par un Coca-Cola frais tiré du frigo. C'est la faim et la soif d'un homme qui, à moins qu'il ne mange et boive vite, mourra certainement dans les heures qui suivent. Est-ce que ce sentiment de faim et de soif, nous l'avons pour Dieu? Eh bien, Jésus dit qu'un vrai chrétien, oui, oui, un vrai chrétien, oui. C'est ce que le psaume 42, 1 et 2 dit. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi, ô Dieu. Alors, ça c'est fantastique. Est-ce que c'est notre première ambition? Est-ce que nous soupirons après Dieu et après sa justice? Est-ce que nous avons faim et soif pour ces choses-là? Mes amis, on peut être tellement distrait, tellement rapidement, n'est-ce pas? Cinq. Au fait, j'ai oublié de le dire, quel est le résultat? Si vous avez faim et soif pour la justice, vous serez rassasié. Dieu va vous bénir, vous combler. Et en plus, vous serez quoi? Heureux. Moi, je vais être heureux. Pas vous? Ben voilà. 5. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors, à première vue, on a l'impression qu'il y a un problème avec ce verset. J'ai dit que ces versets décrivent quelqu'un qui est déjà chrétien. Jésus parlait à ses disciples. Comment Jésus peut-il affirmer que les miséricordieux obtiendront miséricorde s'ils le sont eux-mêmes? N'avons-nous pas là un verset qui pointe aux bonnes œuvres pour mériter miséricorde de Dieu? Eh bien, la réponse est celle-ci. Qu'est-ce que la miséricorde? C'est la compassion pour ceux qui sont dans la misère. Donc, la personne miséricordieuse cherche à aider ceux qui sont dans le besoin, dans la détresse, ceux qui souffrent. Qui sont les gens aujourd'hui qui ont déjà reçu miséricorde de Dieu? Les chrétiens, en Christ. À l'instant où ils ont reconnu leur état de misère devant Dieu, ils ont ouvert leur cœur à Christ pour être totalement pardonnés par lui, à cet instant précis, ils ont reçu eux-mêmes la pleine miséricorde de Dieu. Et un jour dans l'avenir, la Bible nous dit que Jésus-Christ reviendra pour juger le monde. Et en fait, même les chrétiens vont être jugés. 2 Corinthiens 5, 10 nous dit qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. En ce jour-là, ayant reçu miséricorde de Dieu au moment du salut, tout chrétien alors ne sera pas jugé pour ses péchés parce qu'il a déjà été pardonné par Jésus-Christ. Et donc, sa miséricorde, la miséricorde de Dieu à son égard, sera réévoquée. Et au moment du jugement, Dieu verra le sang de Jésus répandu sur nos cœurs pour le pardon de nos péchés et nous dira « Bienvenue dans le royaume éternel ». Alors, aujourd'hui, on attend ce jour, on n'y est pas encore. Quelle est l'évidence que j'ai vraiment reçu miséricorde de Dieu? Et quelle est l'évidence que le jour où je meurs, je recevrai miséricorde à ce jugement? Eh bien, c'est ce que Jésus explique dans le verset 7. Le fait d'être nous-mêmes miséricordieux. Heureux les miséricordieux, car ceci est la preuve qu'ils obtiendront miséricorde au jour du jugement. Pourquoi? Car ils agissent selon la miséricorde qu'ils ont déjà reçue de Dieu. Je redis d'une manière beaucoup plus simple. Ceux qui sont authentiquement miséricordieux, c'est ceux qui ont reçu miséricorde de Dieu. C'est ce que Jésus aussi avait dit à cette femme dans Luc 7, 36. Un pharisien pria à Jésus de manger avec lui, Jésus entra dans sa maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds et ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. » Et j'aimerais aller passer au verset 47, « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Dans une autre histoire, il est en train de dire tout simplement, celui qui a été beaucoup pardonné, pardonnera. Elle a été pardonnée et donc elle manifestait son amour à Jésus parce qu'elle a été aimée et pardonnée par lui. Et c'est pareil pour la miséricorde. Un chrétien qui a reçu la miséricorde de Dieu va, lui, être miséricordieux envers d'autres. Il va aider ceux qui sont dans le besoin. Bien sûr, de manière intelligente. Et je crois que le premier sentiment de miséricorde, c'est envers la défaite et la banqueroute spirituelle des gens autour de nous. Moi, l'autre jour, j'ai rencontré un homme, enfin, je le connaissais déjà, mais j'ai reparlé avec lui, un homme malhonnête à mon égard. Il m'a menti plusieurs fois, un homme qui n'est pas chrétien. Hein. Je suis rentré à la maison, après ce dernier temps passé avec lui, j'étais presque en larmes, et j'ai dit à ma femme, et puis à mon fils aussi, j'ai dit, mais j'ai pitié pour cet homme, quoi. J'ai pitié pour lui, parce qu'il ne reflète que ce qu'il a dans le cœur. Il ne connaît pas le Seigneur. Alors, je lui annonce l'évangile, il n'y a aucune réaction, zéro, niet. Et je me sens incapable de l'aider. Donc, j'essaye de lui montrer miséricorde, parce que j'ai pitié pour lui, en fait. J'ai vraiment pitié pour lui. Je crois que Dieu veut qu'on ait de la miséricorde pour des gens autour de nous, et qu'on voit leur galère, quoi. Et qu'on ait le réflexe de leur annoncer l'évangile, bon, s'il y a une aide matérielle à leur donner, les aider aussi, intelligemment. Il y a des profiteurs, vous savez, il y a beaucoup de profiteurs dans le monde, il faut faire attention. Alors, c'est quoi un chrétien? Premièrement, pauvre d'esprit. 2, affligé. 3, débonnaire. 4, faim et soif de la justice. 5, miséricordieux. 8, un cœur pur. Un cœur pur. Et ça, c'est le verset clé qui montre qu'on ne peut pas faire ça de nos propres efforts. C'est impossible de purifier nos propres cœurs. C'est impossible. C'est intéressant, Jérémie 17,9 nous dit que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Eh bien, la réponse est simple. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner un nouveau cœur, n'est-ce pas? Dans Ézéchiel 36, verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Mes amis, un vrai chrétien a un cœur purifié par nos propres œuvres? Non, par Jésus-Christ, qui nous pardonne tous nos péchés à cause de son sacrifice sur la croix. Et j'aime beaucoup Actes 3, 19. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Ça veut dire quoi, effacer? Ça veut dire effacer. Liquidé, propre. Et voilà ce qu'il promet. Lorsque tu as ton cœur lavé par Christ, tu deviens heureux, c'est ce qu'il dit. C'est tellement pratique, vous ne trouvez pas? Tellement pratique. Et c'est pour ça qu'ils verront Dieu. Parce que leur péché ne les bloque plus d'un Dieu saint lorsqu'ils meurent. 7. Heureux ceux qui procurent la paix. Ils procurent la paix. Je pense qu'ici, je résume tout simplement. Ceux qui procurent la paix, c'est ceux qui connaissent Christ. Eux, ils ont reçu la paix qui vient de Dieu par Christ, et maintenant ils ont un désir, comme je parlais de cet homme que je connais, ils ont un désir d'annoncer l'évangile pour que ces gens puissent, eux, connaître Dieu et avoir la paix entre lui et Dieu, entre eux et Dieu. Peut-être est-il question que quand il y a un conflit, quelqu'un est en conflit, nous on veut tout faire pour essayer d'aider ces deux personnes à résoudre leur conflit. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, Romains 5, 1. Notre désir, c'est de pouvoir voir les gens autour de nous, eux, avoir paix avec Dieu. Et comme je dis, dans un conflit, aider ceux qui sont en conflit, devenir en paix. Et oui, très étonnant, le dernier trait d'un chrétien, ici mentionné par Jésus, le seul trait qui contient 3 versets. Je me dis, tiens, ça va être important. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. C'est comme étonnant. Lorsque tu es persécuté pour la justice, parce que tu es chrétien, la Bible nous dit que tu seras quoi? Heureux. Heureux. Heureux serez-vous lorsque vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Pourquoi? Parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Voyez-vous, mes amis, Quelqu'un qui est pauvre d'esprit, écoutez bien ce que je veux dire, quelqu'un qui est affligé, quelqu'un qui est débonnaire, quelqu'un qui a soif et faim pour la justice, quelqu'un qui est miséricordieux, quelqu'un qui a le cœur purifié par Jésus-Christ, quelqu'un qui annonce l'évangile à d'autres pour qu'eux puissent avoir la paix, et donc ils procurent la paix, ces gens-là seront persécutés. Parce que le monde n'aime pas ce genre de personnes. Parce que ce genre de personne est un rappel constant au monde que eux sont en guerre avec Dieu. Et eux ont besoin d'avoir la paix avec Dieu. Et eux ont besoin d'être affligés de leurs péchés. Et eux ont besoin d'avoir soif et faim de la justice. Et donc nous allons leur dire. Et les gens vont réagir. Parce qu'ils vont pas aimer. Ils vont pas aimer. Et donc nous serons tôt ou tard persécutés. Si tu dis, John, moi je suis pas souvent persécuté. Ah! Eh bien, Paul dit dans 2 Timothée 3:12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si on ne dit jamais rien de mal de toi, si on ne t'accuse jamais faussement pour ta foi, pour Jésus-Christ, si tu n'irrites personne autour de toi, pas parce que tu es irritable, mais parce que tu, en justice, annonces l'évangile, peut-être, tu ne le fais pas. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de réaction. Moi, j'étais chez le coiffeur l'autre jour. Puis je commençais à annoncer l'évangile avec la dame qui me coupait les cheveux. Et tout d'un coup, grand silence chez le coiffeur. Puis il y a du carrelage, alors ça rebondit, il y a un grand écho partout. Et j'étais en train d'annoncer l'évangile à ma coiffeuse et je savais, tous les regards étaient sur moi et tout le monde écoutait tout. Et chaque fois que je disais quelque chose, ça rebondissait sur le carrelage. Je me suis dit, aïe, 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 aïe. J'avais peur qu'elle allait prendre les ciseaux. Clac! Hein? Je ne savais pas. Elle ne l'a pas fait, elle était super gentille. Mais je sentais... un malaise. Je me suis dit, John, ben voilà, bienvenue à la réalité. Alors j'ai continué à annoncer l'évangile, j'ai payé puis je suis parti, d'accord? Mais c'est dur d'annoncer l'évangile, c'est dur pour moi d'annoncer l'évangile. Mais si on n'est pas persécuté, c'est peut-être parce que notre vie n'est pas aussi droite qu'elle devrait l'être, et peut-être que nous n'osons pas annoncer l'évangile lorsque les occasions se présentent. Alors, je donne pas cet exemple pour dire que je fais tout juste. Moi, je suis comme vous. Moi, j'ai peur chaque fois que j'annonce l'évangile. Moi, je suis comme vous. J'essaie d'obéir au Seigneur et je remercie la personne qui m'a amené au Seigneur. Un jour, elle a eu le courage de me parler du Seigneur, n'est-ce pas? Et donc, à nous de faire la même chose aux gens autour de nous. Voilà, mes amis. Voilà les traits d'un chrétien. Très brièvement, ce que Jésus nous rappelle. Inclinons-nous. Inclinons-nous. Je ne sais pas où tu en es personnellement avec le Seigneur. Peut-être tu es déjà chrétien et c'est comme un bilan ce matin et peut-être il y a des points où tu as besoin de demander au Seigneur de te faire grâce et de réactiver ce domaine dans ta vie qui était négligé. Peut-être ici tu ne connais pas le Seigneur ce matin et peut-être tu dois commencer vraiment au tout début. Reconnaître ta banqueroute spirituelle, reconnaître que tu n'as rien à offrir à Dieu. Crie à lui, demande-lui de te pardonner, de te sauver par le moyen de son Fils. Fais-le maintenant. Crie à lui. Seigneur, merci pour ces points. Merci pour ce que nous avons appris ce matin. Et Seigneur, merci parce que tu es bon. Ta grâce envers nous est totale. Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes pleinement utiles à ton service, Seigneur. Et que nos vies soient tellement radicalement différentes de celles autour de nous que les gens réagissent. Et qui nous demande, mais pourquoi des différents? Pourquoi? Dès que nous puissions ensuite répondre clairement et articuler notre foi. Seigneur, à toi la gloire et nous te remercions pour toutes ces choses. Au nom de Jésus. Amen.